Les mémoires de Bidocq, chapitre 3. Je ne trouvais point à Tournai l'adjudant général. Il était parti pour Bruxelles. Je me disposais aussitôt à aller le rejoindre et le lendemain, je pris la diligence pour cette destination. Et du premier coup d'œil, je reconnus parmi les voyageurs trois individus que j'avais connus à Lille, passant des journées entières dans les estaminets et vivant d'une manière fort suspecte. Je les vis, à mon grand étonnement, revêtus d'uniformes de divers corps et portant l'un des épaulettes de lieutenant-colonel, les autres celles de capitaine et de lieutenant. « Où peuvent-ils, disais-je en moi-même, avoir attrapé tout cela, puisqu'ils n'ont jamais servi ?» Je me perdais dans mes conjectures. De leur côté, ils paraissaient d'abord un peu confus de la rencontre, mais ils se remirent bientôt et me témoignèrent une surprise amicale de me retrouver simple soldat. Lorsque je leur eus expliqué comment le licentiement dans les bataillons de la réquisition m'avait fait perdre mon grade, le lieutenant-colonel me promit sa protection que j'acceptais, quoique ne sachant que trop que penser de protecteur, mais ce que j'y voyais le plus clair, c'est qu'il était en fond et qu'il payait pour tous dans les tables d'hôtes où il affichait un républicanisme ardent tout en affectant de laisser entrevoir qu'il appartenait à quelque ancienne famille. Je ne fus pas plus heureuse à Bruxelles qu'à Tournai. L'adjudant général, qui semblait se dérober devant moi, venait de se rendre à Liège. Je pars pour cette ville, comptant bien cette fois ne pas faire une course inutile. J'arrive, mon homme s'était mis en route la veille pour Paris, où il devait comparaître à la barre de la Convention. Son absence ne devait pas être de plus de 15 jours. J'attends, personne ne paraît, un mois s'écoule, personne encore. Les espèces baissaient singulièrement chez moi. Je prends le parti de regagner Bruxelles où j'espérais trouver plus facilement les moyens de sortir d'embarras. Pour parler avec la franchise que je me pique d'apporter dans cette histoire de ma vie, je dois déclarer que je commençais à n'être pas excessivement difficile sur le choix de ces moyens. Mon éducation ne devait pas m'avoir rendu homme à grands scrupules, et la détestable société de garnison que je fréquentais depuis mon enfance aurait corrompu le plus heureux naturel. Ce fut donc, sans faire grande violence à ma délicatesse, que je me vis installé à Bruxelles chez une femme galante de ma connaissance, qui, après avoir été entretenue par le général van der Noth, était à peu près tombée dans le domaine public. Oisif comme tous ceux qui sont jetés dans cette existence précaire, je passais les journées entières et une partie des nuits au café turc et au café de la Monnaie, où se réunissaient de préférence les chevaliers d'industrie et les joueurs de profession. Ces gens-là faisaient de la dépense, jouaient un jeu d'enfer, et comme ils n'avaient aucune ressource connue, je ne revenais plus de leur voir mener un pareil train. Un jeune homme avec lequel je m'étais lié et que je questionnais à ce sujet parut frappé de mon inexpérience, et j'eus toutes les peines du monde à lui persuader que j'étais aussi neuf que je le disais. « Mais les hommes que vous voyez ici tous les jours, me dit-il alors, sont des escrocs. Ceux qui ne font qu'une apparition sont des dupes, qui ne reparaissent plus, mais une fois qu'ils ont perdu leur argent. » Muni de ces instructions, je fis une foule de remarques qui jusque-là m'avaient échappé. Je vis des tours de passe-passe infroyables, et ce qui me prouverait qu'il y avait encore du bon chez moi, je fus souvent tenté d'avertir le malheureux qu'on dépouillait. Ce qui m'arriva prouverait que les faiseurs m'avaient deviné. Une partie s'engage un soir au café turc. On jouait 15 louis en 5 impériales. Le gonze, la dupe, perd 50 louis. Demande une revanche pour le lendemain et sort. À peine a-t-il mis le pied dehors que le gagnant, que je vois encore tous les jours à Paris, s'approche et me dit du ton le plus simple « Ma foi, monsieur, nous avons joué de bonne heure et vous n'avez pas mal fait de vous mettre de mon jeu. J'ai gagné 10 parties. À 4 couronnes que vous avez engagées, c'est 10 louis, les voilà. » Je lui fis observer qu'il était dans l'erreur, que je ne m'étais pas intéressé à son jeu. Il me répondit qu'en me mettant les 10 louis dans la main. Après quoi, il me tourna le dos. « Prenez, » me dit le jeune homme qui m'avait initié au ministère du tripot et qui se trouvait à côté de moi, « prenez et suivez-moi. » Je fis machinalement ce qu'il me disait, et lorsque nous fûmes dans la rue, mon mentor ajouta, « On s'est aperçu que vous suiviez les parties. On craint qu'il ne vous prenne fantaisie de découvrir le poteau rose. Et comme il n'y a pas moyen de vous intimider, parce qu'on sait que vous avez le bras bon et la main mauvaise, on s'est décidé à vous donner part au gâteau. Ainsi, soyez tranquille sur votre existence. Les 2 cafés peuvent vous suffire, puisque vous en pouvez tirer, comme moi, de 4 à 6 couronnes par jour. » Malgré toute la complaisance qui mettait ma conscience, je voulus répliquer et faire des observations. « Mais vous êtes un enfant, » me dit mon honorable ami. « Il ne s'agit pas ici de vol. On corrige tout simplement la fortune. Et croyez que les choses se passent ainsi dans le salon comme dans la taverne. Là, on triche, c'est le mot reçu. Et le négociant qui, le matin dans son comptoir, se ferait un crime de vous faire tort d'une heure d'intérêt, celui-là même vous attrape fort tranquillement le soir. » Au jeu, de répondre à d'aussi formidables arguments, rien. Il ne restait qu'à garder l'argent et c'est ce que je fis. Ces petits dividendes, joints à 100 écus que me fit passer ma mère, me mirent en état de faire quelques figures et de témoigner ma reconnaissance à cette Émilie dont le dévouement ne me trouvait pas tout à fait insensible. Nos affaires étaient donc en assez bon train, lorsqu'un soir, je fus arrêté au théâtre du Parc par plusieurs agents de police qui me sommèrent d'exhiber mes papiers. Oh, c'était pour moi chose assez dangereuse. Je répondis que je n'en avais pas. On me conduisit au mât de l'honnête et le lendemain, à l'interrogatoire, je m'aperçus qu'on ne me connaissait pas ou qu'on me prenait pour un autre. Je déclarai alors me nommer Rousseau, né à Lille, et j'ajoutais que, venu à Bruxelles pour mon plaisir, je n'avais pas cru devoir me munir de papier. Je demandais enfin à être conduit à Lille à mes frais par 2 gendarmes. On m'accorda ce que je réclamais, et moyennant quelques couronnes, mon escorte consentit à ce que la pauvre Émilie m'accompagnât. Être sorti de Bruxelles, c'était fort bien, mais il était encore plus important de ne pas arriver à Lille, où je devais être inévitablement reconnu déserteur. Il fallait s'évader à tout prix, et ce fut l'avis d'Émilie à laquelle je communiquai mon projet, que nous exécutâmes en arrivant à Tournai. Je dis aux gendarmes que, devant nous quitter le matin, le lendemain en arrivant à Lille, où je devais être mis sur le champ en liberté, je voulais leur faire mes adieux par un bon souper. Déjà charmés de mes manières libérales et de ma gaieté, ils acceptèrent de grand cœur et le soir, pendant que, couché sur la table, ivre de bière et de rhum, ils me croyaient dans le même état, je descendais avec mes draps par la fenêtre d'un second étage. Émilie me suivait, et nous nous enfoncions dans les chemins de traverse où l'on ne devait pas même songer à venir nous chercher. Nous gagnâmes ainsi le faubourg Notre-Dame à Lille où je me revêtis d'une capote d'uniforme de chasseur à cheval en prenant la précaution de me mettre sur l'œil gauche un emplâtre de taffetas noir qui me rendait méconnaissable. Cependant, je ne jugeais pas prudent de rester longtemps dans une ville aussi voisine du lieu de ma naissance et nous partîmes pour Gand. Là, par un incident passablement romanesque, Émilie retrouva son père. qu'il la décida à revenir dans sa famille. Il est vrai qu'elle ne consentit à me quitter qu'à la condition expresse que j'irai la rejoindre aussitôt que les affaires que je disais avoir à Bruxelles seraient terminées. Les affaires que j'avais à Bruxelles, c'était de recommencer à exploiter le café turc et le café de la Monnaie. Mais pour me présenter dans cette ville, il me fallait des papiers qui justifiassent que j'étais bien Rousseau, né à Lille, comme je l'avais dit dans l'interrogatoire qui avait précédé mon évasion. Un capitaine de carabiniers belges au service de France, nommé Labre, se chargea, moyennant 15 louis, de me fournir les pièces qui m'étaient nécessaires. Au bout de 3 semaines, il m'apporta effectivement un extrait de naissance, un passeport et un certificat de réforme au nom de Rousseau. Le tout confectionné avec une perfection que je n'avais jamais reconnue chez aucun faussaire. Muni de ces pièces, je reparus effectivement à Bruxelles, où le commandant de place, ancien camarade de l'arbre, se chargea d'arranger mon affaire. Tranquille de ce côté, je courus au café turc. Les premières personnes que j'aperçus dans la salle furent les officiers de fabrique avec lesquels on se rappelle que j'avais déjà voyagé. Ils me reçurent à merveille et devinant au récit de mes aventures que ma position n'était pas des plus brillantes, ils me proposèrent un grade de sous-lieutenant de chasseur à cheval, sans doute parce qu'ils me voyaient une capote de l'armée. Une promotion aussi avantageuse n'était pas chose à refuser. On prit mon signalement, séance tenante, et comme je faisais observer au comité que Rousseau était un nom d'emprunt, le digne lieutenant-colonel me dit de prendre celui qui me conviendrait le mieux. On voit qu'il était impossible d'y mettre plus de bonne volonté. Je me décide à conserver le nom de Rousseau, sous lequel on me délivre, non pas un brevet, mais une feuille de route de sous-lieutenant du 6e chasseur, voyageant avec son cheval, ayant droit au logement et aux distributions. C'est ainsi que je me trouvais incorporé dans cette armée roulante, composée d'officiers sans brevet, sans troupes, qui, munis de faux états et de fausses feuilles de route, m'en imposaient d'autant plus facilement au commissaire des guerres qu'il y avait moins d'ordre à cette époque dans les administrations militaires. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans une tournée que nous fîmes dans les Pays-Bas, nous touchâmes partout nos rations sans qu'on fît la moindre observation. Cependant, l'armée roulante n'était pas alors composée de moins de 2000 aventuriers qui arrivaient là comme et qui vivaient comme le poisson dans l'eau. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'on se donnait un avancement aussi rapide que le permettaient les circonstances, avancement dont le résultat était toujours lucratif, puisqu'il faisait élever les rations. Je passais, de cette manière, capitaine de hussards, un de nos camarades devint chef de bataillon, mais ce qui me confondit, ce fut la promotion d'Auffray, notre lieutenant-colonel, au grade de général de brigade. Il est vrai que si l'importance du grade et l'espèce de notabilité d'un déplacement de ce genre rendaient la fraude plus distincte, difficile à soutenir, l'audace d'une telle combinaison écartait jusqu'au soupçon. Revenus à Bruxelles, nous fûmes délivrés des billets de logement et je fus envoyé chez une riche veuve, Madame la baronne D. On me reçut comme on recevait à cette époque les Français à Bruxelles, c'est-à-dire à bras ouverts. Une fort belle chambre fut mise à mon entière disposition, et mon hôtesse, enchantée de ma réserve, me prévint de l'air le plus gracieux que, si ces heures me convenaient, mon couvert serait toujours mis. Il était impossible de résister à des offres aussi obligeantes, et je me confondis en remerciements, et le même jour il me fallut paraître au dîner, dont les convives étaient 3 vieilles dames, non compris la baronne, qui n'avait guère passé la cinquantaine. Tout ce monde fut enchanté des manières prévenantes du capitaine de hussards. À Paris, on le trouvait un peu gauche, en Paris-Compagnie. Mais à Bruxelles, on devait le trouver parfait pour un jeune homme dont l'entrée précoce au service avait dû nécessairement nuire à son éducation. La baronne fit sans doute quelques réflexions de ce genre, puisqu'elle en vint avec moi de petits soins qui me donnèrent fort à penser. Comme je m'absentais quelquefois pour aller dîner avec mon général, dont je ne pouvais pas, lui disais-je, refuser les invitations, elle voulut absolument que je lui présentasse avec mes autres amis. D'abord, je me souciais guère d'introduire mes associés dans la société de la baronne. Elle voyait du monde et nous pouvions rencontrer chez elle quelqu'un qui découvrit nos petites spéculations. Mais la baronne insista, et je me rendis en témoignant le désir que le général, qui voulait garder une espèce d'incognito, fut reçu en petit comité. Il vint donc. La baronne, qui l'avait placé près d'elle, lui fit un accueil si distingué, lui parla si longtemps à demi-voix, que je fus piqué. Pour rompre le tête-à-tête, j'imaginais d'engager le général à nous chanter quelque chose en s'accompagnant sur le piano. Je savais fort bien qu'il était incapable de déchiffrer une note, mais je comptais sur les instances ordinaires de la compagnie pour lui donner de l'occupation, au moins pour quelques instants. Mon stratagème ne réussit qu'à moitié. Le lieutenant-colonel, qui était de la partie, voyant qu'on pressait vivement le général, offrit obligeamment de le remplacer. Je le vis en effet se mettre au piano et chanter quelques morceaux avec assez de goût pour recueillir tous les suffrages, tandis que j'aurais voulu le voir à tous les diables. Cette éternelle soirée finit pourtant et chacun se retira, moi roulant dans ma tête des projets de vengeance contre le rival qui allait m'enlever, ou je ne dirais pas l'amour, mais les soins obligeants de la baronne. Tout préoccupé de cette idée, je me rendis à mon lever chez le général, qui fut assez surpris de me voir de si grand matin. « Sais-tu, me dit-il, sans me laisser le temps d'entamer la conversation, sais-tu, mon ami, que la baronne est... » « Mais qui vous parle de la baronne ? » interrompis-je brusquement. « Ce n'est pas de ce qu'elle est ou de ce qu'elle n'est pas qu'il s'agit ici. »« Tant pis, reprit-il, si tu ne me parles pas d'elle, je n'aurai rien à entendre. » Et continuant ainsi quelque temps à m'intriguer, il finit par me dire que son entretien avec la baronne n'avait roulé que sur moi seul, et qu'il avait tellement avancé mes affaires qu'il la croyait toute disposée à m'épouser. Je crus d'abord que la tête avait tourné à mon pauvre camarade. Une des femmes titrées les plus riches des Provinces-Unies épousait un aventurier dont elle ne connaissait ni la famille, ni la fortune, ni les antécédents. Il y avait de quoi rendre les plus confiants incrédules. Devais-je d'ailleurs m'engager dans une fourberie qui devait tôt ou tard se découvrir et me perdre? N'étais-je pas enfin bien et dûment marié à Arras? Ces objections et plusieurs autres, que me suggérait une sorte de remords, de tromper l'excellente femme qui me comblait d'amitié, m'arrêtèrent par un instant mon interlocuteur. Et voici comment il répondit. Tout ce que tu me dis là est fort beau. Je suis tout à fait de ton avis, et pour suivre mon penchant naturel pour la vertu, il ne me manque que 10 000 livres de rente. Mais je ne vois pas la raison de faire ici le scrupuleux. Que veut la baronne? Un mari, et un mari qui lui convienne. Ben, n'es-tu pas ce mari-là? N'as-tu pas l'intention d'avoir pour elle toutes sortes d'égards et de la traiter comme quelqu'un qui nous est utile et nous n'avons jamais eu à nous plaindre? Tu me parles d'inégalité de fortune, mais la baronne n'y tient pas. Il ne te manque donc pour être à son fait qu'une seule chose, des titres. Eh bien, je t'en donne. Oui, je t'en donne. Oh, tu as beau me regarder Avec de grands yeux, écoute-moi plutôt, et ne fais pas répéter le commandement. Tu dois connaître quelques nobles de ton pays, de ton âge. Tu es ce noble-là. Tes parents ont émigré, ils sont maintenant à Hambourg. Toi, tu es rentré en France pour faire acheter par un tiers la maison paternelle, afin de pouvoir enlever à loisir la vaisselle plate et 1 000 doubles louis cachés sous le parquet du salon. Au commencement de la terreur, la présence de quelques importants, la précipitation du départ, qu'un mandat d'amener lancé contre ton père ne permettait pas de retarder d'un instant, vous ont empêché de reprendre ce dépôt. Et arrivé dans le pays, déguisé en compagnon tanneur, tu as été dénoncé par l'homme même qui devait te seconder dans ton entreprise, décrété d'accusation, poursuivi à la veille de porter ta tête sur l'échafaud, quand je t'ai retrouvé sur une grande route, demi-mort d'inquiétude et de besoin. Et ancien ami de ta famille, je t'ai fait obtenir un brevet d'officier de hussard sous le nom de Rousseau, en attendant que l'occasion se présente d'aller rejoindre tes nobles parents à Hambourg. La baronne sait déjà tout cela, oui, tout, excepté ton nom que je ne lui ai pas dit, par forme de discrétion, mais en effet par la raison que je ne sais pas encore celui que tu prendras. C'est une confidence que je te réserve à toi-même. Ainsi, c'est une affaire faite, voilà gentilhomme, il n'y a plus à s'en dédire. On ne me parle pas de ta coquine de femme. Tu divorces à Arras sous le nom de Vidocq et tu te maries à Bruxelles sous celui du comte de B. Maintenant, écoute-moi bien. Jusqu'à présent, nos affaires ont assez bien été. Mais tout cela peut changer d'un moment à l'autre. Nous avons déjà trouvé quelques commissaires des guerres curieux. Nous pouvons en rencontrer de moins dociles qui nous coupent les vivres et nous envoient servir dans la petite marine à Toulon. Tu comprends? Enfin, suffit. Ce qui peut arriver de plus heureux, c'est de reprendre le sac et le crucifix à ressort dans ton ancien régiment au risque d'être fusillé comme déserteur. En te mariant, au contraire, tu t'assures une belle existence et tu te mets en position d'être utile aux amis. Puisque nous en sommes sur ce chapitre-là, faisons nos petites conventions. Ta femme a 100 000 florins de rente. Nous sommes trois, tu nous feras chacun 1 000 écus de pension, payables d'avance, et je palperai de plus une prime de 30 000 francs pour avoir fait un compte du fils d'un boulanger. J'étais déjà ébranlé. Cette harangue dans laquelle le général m'avait adroitement présenté toutes les difficultés de ma position acheva de triompher de ma résistance, qui, à vrai dire, n'était pas des plus opiniâtres. Alors je consens à tout. On se rend chez la baronne. Le comte de B tombe à ses pieds. Oh, la scène se joue. Et ce qu'on aura peine à croire, je me pénètre si bien de l'esprit du rôle que je me surprends un moment, m'y trompant moi-même. Ce qui arrive, dit-on quelquefois, aux menteurs. La baronne est charmée des saillies et des mots de sentiment que la situation m'inspire. Le général triomphe de mes succès, et tout le monde est enchanté. Oh, il m'échappait bien par-ci par-là quelques expressions qui sentaient un peu la cantine, mais le général avait eu soin de prévenir la baronne que les troubles politiques avaient fait singulièrement négliger mon éducation. Elle s'était contentée de cette explication. Depuis, le maréchal Suchet ne s'est pas montré plus difficile lorsque Coignard, lui écrivant à monsieur le duc d'Albufera, s'excusait sur ce qu'émigré fort jeune, il ne pouvait connaître que très imparfaitement le français. On se met à table, le dîner se passe à merveille, et au dessert, la baronne me dit à l'oreille: Je sais, mon ami, que votre fortune est entre les mains des Jacobins. Cependant, vos parents, qui sont à Hambourg, peuvent se trouver dans l'embarras. Faites-moi le plaisir de leur adresser une traite de 3 000 florins que mon banquier vous remettra demain matin. Je commençais les remerciements, elle m'interrompit et quitta la table pour passer au salon. Je saisis ce moment pour dire au général ce qui venait de m'arriver. « Hé, Nigaud, me dit-il, crois-tu m'apprendre quelque chose ? N'est-ce pas moi qui ai soufflé à la baronne que ses parents pouvaient avoir besoin d'argent ? Pour le moment, ces parents-là, c'est nous. Nos fonds baissent et hasarder quelques coups pour s'en procurer, ce serait risquer de gaieté et de cœur le succès de notre grande affaire. Je me charge de négocier la traite. En même temps, j'ai insinué à la baronne qu'il te fallait quelque argent pour faire figure avant le mariage. Et il est convenu que d'ici à la cérémonie, tu toucheras 500 florins par mois. Je trouvai effectivement cette somme le lendemain sur mon secrétaire, où on l'avait déposée de plus une toilette en vermeil et quelques bijoux. Cependant, l'extrait de naissance du comte de B, dont j'avais pris le nom, et que le général avait voulu faire lever, comptant faire fabriquer des autres pièces, n'arrivait pas. Mais la baronne, dont l'aveuglement doit paraître inconcevable aux personnes qui ne sont pas en position de savoir jusqu'où peut aller la crédulité des dupes et l'audace des fripons, consentit à m'épouser sous le nom de Rousseau. J'avais tous les papiers nécessaires pour en justifier. Il ne me manquait plus que le consentement de mon père, et rien n'était plus facile que de se le procurer au moyen de l'arbre que nous avions sous la main. Mais, bien que la baronne eût consenti à m'épouser sous un nom qu'elle savait bien être pas le mien, il pouvait lui répugner d'être en quelque sorte complice d'un faux qui n'avait plus pour excuse le besoin de sauver ma tête. Et pendant que nous nous concertions pour sortir d'embarras, nous apprîmes que l'effectif de l'armée roulante était devenu si considérable dans les pays conquis que le gouvernement, ouvrant enfin les yeux, donnait les ordres les plus sévères pour la répression de ces abus. On mit alors bas les uniformes, croyant n'avoir plus aussi rien à craindre. Mais les recherches devinrent tellement actives que le général dut quitter brusquement la ville pour gagner Namur, où il croyait être moins en vue. J'expliquai ce brusque départ à la baronne en lui disant que le général était inquiété pour m'avoir fait obtenir du service sous un nom supposé. Cet incident lui inspira les plus vives inquiétudes pour moi-même, et je ne pus la tranquilliser qu'en partant pour Bréda, où elle voulut absolument m'accompagner. Il me sciérait mal de jouer la sensiblerie, et ce serait compromettre la réputation de finesse et de tact qu'on m'accorde assez généralement que d'étaler les beaux sentiments. On doit donc me croire lorsque je déclare que tant de dévouement me toucha. La voix des remords, à laquelle on n'étant jamais entièrement sourd à 19 ans, se fit entendre. Je vis l'abîme où j'allais entraîner l'excellente femme qui s'était montrée si généreuse à mon égard. Et je la vis repoussant bientôt avec horreur le déserteur, le vagabond, le bigame, le faussaire. Et cette idée me détermina à lui tout avouer. Éloigné de ceux qui m'avaient engagé dans cette intrigue et qui venaient d'être arrêtés à Namur, je m'affermis dans ma résolution. Un soir, au moment où le souper se terminait, je me décidai à rompre la glace. Sans entrer dans les détails de mes aventures, je dis à la baronne que des circonstances qui m'étaient impossibles de lui expliquer m'avaient contraint à paraître à Bruxelles sous les deux noms qu'elle me connaissait et qui n'étaient pas les miens. J'ajoutai que des événements me forçaient de quitter les pays bas sans pouvoir contracter une union qui eût fait mon bonheur, mais que je conserverais éternellement le souvenir des bontés qu'on y avait eues pour moi. Je parlais longtemps, et l'émotion me gagnant, je parlais avec une chaleur, une facilité avec laquelle je n'ai pu songer depuis sans en être étonné moi-même. Il me semblait que je craignais d'entendre la réponse de la baronne. immobile, les joues pâles, l'œil fixe comme une somnambule. Elle m'écouta sans m'interrompre, puis me jeta un regard d'effroi. Elle se leva brusquement et courut s'enfermer dans sa chambre. Je ne la revis plus. Éclairé par mon aveu, par quelques mots qui m'étaient sans doute échappés dans le trouble du moment, elle avait reconnu les périls qui la menaçaient, et dans sa juste méfiance, peut-être me soupçonnait-elle plus coupable que je ne l'étais en effet. Peut-être croyait-elle s'être livrée à quelque grand criminel. Peut-être y avait-il là du sang. Et d'un autre côté, si cette complication de déguisement devait rendre ses appréhensions bien vives, l'aveu spontané que je venais de lui faire était aussi bien propre à calmer ses inquiétudes. Cette dernière idée domina probablement chez elle, puisque le lendemain, à mon réveil, l'hôte me donna une cassette contenant 15 000 francs en or que la baronne lui avait remise pour moi avant son départ à 1 heure du matin. Je la pris avec plaisir, sa présence me pesait. Rien ne me retenant à Breda, je fis faire mes malles, et quelques heures après, j'étais sur la route d'Amsterdam. Je l'ai dit, ou je le répète, certaines parties de cette aventure pourront paraître peu naturelles, et l'on ne manquera pas d'en conclure que tout est faux. Rien n'est cependant plus exact. Les initiales que je donne suffiront pour mettre sur la voie les personnes qui ont connu Bruxelles il y a 30 ans. Il n'y a d'ailleurs dans tout cela que des situations communes, telles qu'en offre le plus mince roman. Si je suis entré dans quelques détails minutieux, ce n'est donc pas dans l'espoir d'obtenir des effets de mélodrame, mais avec l'intention de prémunir les personnes trop confiantes contre un genre de déception employé plus fréquemment et avec plus de succès qu'on ne pense dans toutes les classes de la société. Et tel est au reste le but de cet ouvrage, qu'on le médite dans toutes ses parties, et les fonctions de procureur du roi, de juge, de gendarme et d'agent de police seront peut-être un beau matin des sinécures. Mon séjour à Amsterdam fut très court. C'était Paris que je brûlais de voir. Après avoir touché le montant des deux traites que faisait partie de l'argent que m'avait laissé la baronne, je me mis en route et le 2 mars 1796, je fis mon entrée dans cette capitale où mon nom devait faire un jour quelque bruit. Logé rue de l'Échelle, hôtel du Gaillard-Bois, je m'occupais d'abord de changer mes ducats contre de l'argent français et de vendre une foule de petits bijoux et d'objets de luxe qui me devenaient inutiles puisque j'avais l'intention de m'établir dans quelques villes des environs où j'aurais embrassé un état quelconque. Et je ne devais pas réaliser ce projet. Un soir, un de ces messieurs, qu'on trouve toujours dans les hôtels pour faire connaissance avec les voyageurs, me propose de me présenter dans une maison où l'on fait la partie. Par désœuvrement, je me laissais conduire, confiant dans mon expérience du café turc et du café de la Monnaie. Mais je m'aperçus bientôt que les crocs de Bruxelles n'étaient que des apprentis en comparaison des praticiens dont j'avais l'avantage de faire la partie. Aujourd'hui, l'administration des jeux n'a guère pour elle que le reflet et l'immense avantage d'être toujours au jeu. Les chances sont du reste à peu près égales. À l'époque dont je parle, au contraire, la police tolérant ces tripots particuliers nommés étouffoirs, on ne se contentait pas de filer la carte ou d'assembler les couleurs, comme ils furent pris il y a quelque temps chez M. Lafitte, M. de Hesse, fils et A. de la Roche. Les habitués avaient entre eux des signaux de convention, tellement combinés qu'il fallait absolument succomber. 2 séances me débarrassèrent d'une centaine de louis. et j'en eus assez comme cela. Mais il était écrit que l'argent de la baronne me fausserait bientôt compagnie. L'agent du destin fut une fort jolie femme que je rencontrai dans une table d'hôte où je mangeais quelquefois. Rosine, c'était son nom, montra d'abord un désintéressement d'exemplaire. Depuis un mois, j'étais son amant en titre sans qu'elle m'eût rien coûté que des dîners, des spectacles, des voitures, des chiffons, des gants, des rubans, des fleurs, etc. Toutes choses qui, à Paris, ne coûtent rien quand on ne les paye pas. Toujours plus épris de Rosine, je ne la quittais pas d'un instant. Un matin, déjeunant avec elle, je la trouve soucieuse, je la presse de questions, elle résiste et finit par m'avouer qu'elle était tourmentée pour quelques bagatelles dues à sa marchande de mode et à son tapissier. J'offre avec empressement mes services. On refuse avec une malignité remarquable. Je ne peux pas même obtenir l'adresse des deux créanciers. Beaucoup d'honnêtes gens se seraient tenus pour bien dit, mais, véritable paladin, je n'ai pas un instant de repos que je devine la femme de chambre ne m'eût donné les précieuses adresses. Et de la rue Vivienne, où demeurait Rosine qui faisait appeler Madame de Saint-Michel, je cours chez le tapissier, rue de Cléry. J'annonce le but de ma visite, aussitôt on m'accable de prévenance, comme c'est l'usage en pareille circonstance. On me remet le mémoire et je vois avec consternation qu'il s'élève à 1 200 francs. J'étais cependant trop avancé pour reculer. Je paye. Chez la modiste, même scène et même dénouement. À 100 francs près. Mais là, de quoi refroidir le plus intrépide. Mais les derniers mois n'en étaient pas encore dits. Quelques jours après que j'eus soldé les créanciers, on m'amena à acheter pour 2 000 francs de bijoux et les parties de toute espèce n'en allaient pas moins leurs traits. Je voyais bien, confusément, mon argent s'en aller. Mais redoutant le moment de la vérification de ma caisse, je le reculais de jour en jour. J'y procède enfin et je trouve qu'en 2 mois, j'avais dissipé la modique somme de 14 000 francs. Cette découverte me fit faire de sérieuses réflexions. Rosine s'aperçut aussitôt de ma préoccupation. Elle devina que mes finances étaient à la baisse. Les femmes ont à cet égard un tact qui les trompe rarement. Sans me témoigner précisément de la froideur, elle me montra plus de réserve. Et comme je leur manifestais mon étonnement, elle me répondit, avec une brusquerie marquée, que des affaires particulières lui donnaient de l'humeur. Le piège était là, mais j'avais été trop bien puni de mon intervention dans ces affaires pour m'en mêler encore, et je me retranchais dans un air affecté en l'engageant à prendre patience. Elle n'en devint que plus maussade. Quelques jours se passèrent en bouderie, enfin, la bombe éclata. À la suite d'une discussion fort insignifiante, elle me dit du ton le plus impertinent qu'elle n'aimait pas être contrariée, et que ceux qui ne s'arrangeaient pas de sa manière d'être pouvaient rester chez eux. C'était parlé, et j'eus la faiblesse de ne pas vouloir l'entendre. De nouveaux cadeaux me rendirent pour quelques jours une tendresse sur laquelle je ne devais cependant plus m'abuser. Alors, connaissant tout le parti qu'on pouvait tirer de mon aveugle engouement, Rosine revint bientôt à la charge pour le montant d'une lettre de change de 2 000 francs qu'elle devait acquitter sous peine d'être condamnée par corps. Rosine en prison, cette idée m'était insupportable. J'allais encore m'exécuter lorsque le hasard me fit tomber entre les mains une lettre qui me dessilla les yeux. Elle était de l'ami de cœur de Rosine. Le Versailles où il était confiné Cet intéressant personnage demandait quand le niais serait à sec afin de pouvoir reparaître sur la scène. C'était entre les mains du portier de Rosine que j'avais intercepté cette agréable missive. Je monte chez la perfide, elle était sortie. Furieuse et humiliée tout à la fois, je ne pus me contenir. Je me trouvais dans la chambre à coucher. D'un coup de pied, je renverse un guéridon couvert de porcelaine et la glace d'une psyché vole en éclats. Divine, la femme de chambre qui ne m'avait pas perdu de vue, se jette alors à mes genoux et me supplie d'interrompre une expédition qui pouvait me coûter cher. Je la regarde, j'hésite, et un reste de bon sens me fait concevoir qu'elle pouvait bien avoir raison. Je la presse de questions, mais cette pauvre fille, que j'avais toujours trouvée douce et bonne, m'explique toute la conduite de sa maîtresse. Il est d'autant plus opportun de mentionner son récit que les mêmes faits se reproduisent journellement à Paris. Lorsque Rosine me rencontra, elle était depuis 2 mois sans personne. Me croyant fort bien d'après les dépenses qu'elle me voyait faire, elle conçut le projet de profiter de la circonstance, et son amant, celui dont j'avais surpris la lettre, avait consenti à aller habiter Versailles jusqu'à ce qu'on en eût fini avec mon argent. Et c'était au nom de cet amant qu'on poursuivait pour la lettre de change que j'avais généreusement acquittée, et les créances de la modiste et du marchand de meubles étaient également simulées. Comme tout en pestant contre ma sottise, je m'étonnais de ne pas voir rentrer l'honnête personne qui m'avait si bien étrillé, Divine me dit qu'il était probable que la portière l'avait fait avertir que j'avais saisi sa lettre et qu'elle ne m'arrêterait pas de sitôt. Cette conjecture se trouva vraie. En apprenant la catastrophe qui l'empêchait de me tirer jusqu'à la dernière plume de l'aile, Rosine était partie en fiacre pour Versailles. On sait qui elle allait rejoindre. Les chiffons qu'elle laissait dans son appartement garni ne valaient pas les 2 mois de loyer qu'elle devait au propriétaire, qui, lorsque je voulus sortir, me força de payer les porcelaines et la psyché sur laquelle j'avais passé ma première fureur. 2 si rudes atteintes avaient furieusement écorné mes finances déjà trop délabrées. 1 400 francs, voilà tout ce qui me restait des ducats de la baronne. Oh, je pris en horreur la capitale qui m'avait été si funeste, et je résolus de regagner l'île, où, connaissant les localités, je pourrais au moins trouver des ressources que j'eusse cherché vainement à Paris.